9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche. On a beaucoup polémiqué ces derniers temps sur les jets privés et la pollution engendrée par quelques privilégiés. Mais c'était oublié une autre solution qui devrait bientôt permettre de transporter toute une équipe de football aux quatre coins de la France à la vitesse de 450 km/h. C'est l'avion électrique. Le premier vient d'être autorisé à voler dans l'espace aérien français. Charles Kabilic en a commandé 50 exemplaires. Il est mon premier invité ce matin. Je recevrai ensuite Alice Zeniter qui publie toute une moitié du monde sur la place des femmes dans la fiction, et Rémi Koffer pour son livre « Les espions de Cambridge » sur la plus fantastique affaire d'espionnage du XXe siècle, Philby, Burgess, MacLean, Blunt et Cairncross, cinq taupes soviétiques au cœur des services secrets britanniques.
Europe 1.
Charles Kabilic, bonjour.
Bonjour, Frédéric.
Vous êtes le patron de Green Aerolease à Brest, une entreprise française qui veut décarboner le transport aérien. Alors en entendant la polémique déclenchée par la déclaration de l'entraîneur du PSG, Christophe Galtier, et par le rire de Kylian Mbappé qui s'en est suivi, j'ai eu envie de vous inviter car une solution se profile entre le jet privé très polluant et le char à voile, c'est l'avion électrique. Le premier vient d'être autorisé à voler dans l'espace aérien français, c'est le Pipistrel Velis Electro. Vous en avez commandé 50 exemplaires plaire aux Slovènes qu'il fabrique. Vous pouvez nous le décrire ?
Alors, à ce stade, c'est un avion de formation et de loisirs. C'est un avion deux places, 100% électrique. C'est une première mondiale qui est européenne, donc on peut être fier de nous. C'est un constructeur slovène qui s'appelle Pipistrel qui a réussi à certifier cet avion auprès de l'EASA, l'organisme européen de certification. Et cet avion, on en a commandé 50, on en a d'ores et déjà livré un peu plus de 30, dont plus de la moitié sont en France. Brest était le premier à recevoir cet avion électrique il y a maintenant un an, et avec des usages assez incroyables, parce que ça va de la formation initiale des pilotes au vol de loisirs ou au baptême aérien, en passant par l'armée danoise qui en a commandé deux pour former les pilotes danois et pour voir comment on peut utiliser ce genre d'avion pour de la surveillance aérienne. Donc voilà, c'est une première, c'est le tout début d'une grande série, puisqu'il y a une trentaine de projets à peu près dans le monde aujourd'hui d'avions électriques, hybrides ou hydrogènes.
Oui, parce que c'est un biplace, hein, vous l'avez dit, mais plusieurs modèles d'avions allant jusqu'à 12 places, pouvant donc accueillir toute une équipe de football, sont en projet pour l'année prochaine. Hein. Vous vous y intéressez également, j'imagine.
Il y a un avion qui devrait voler ce mois-ci, qui s'appelle Alice et Aviation, qui fait 9 places, 100% électrique, dont d'ailleurs la coque a été construite à Vannes par une société qui s'appelle Multiplast. Il y a d'autres projets d'avions 9 places également, il y a Tecnam, Pipistrel prévoit un 19 places hydrogène, Aura Aero, qui est une société toulousaine, prévoit également 19 places. Donc tout ça, ça va arriver, mais ça va arriver le temps de le certifier concrètement en 2024-2025 pour tout ce qui est, je vais dire, du transport régional ou interrégional décarboné.
Interrégional, ça veut dire quel rayon d'action et à quelle vitesse en moyenne ?
Alors les avions qui se présagent aujourd'hui ont des autonomies d'environ 500 nautiques, c'est-à-dire à peu près 800 km, à une vitesse de 450 à 600 km/h. En tout cas, ce sont les spécifications qui sont aujourd'hui annoncées. Alors, il faudra voir avec la certification et est-ce que ça va se maintenir. Sachant qu'on a quand même des très grands espoirs sur l'amélioration des batteries. Parce que nous, depuis un an et demi maintenant qu'on travaille avec Pipistrel, on a déjà vu progresser les batteries de manière très significative, à peu près plus 15% d'autonomie là, sur l'année qui vient de s'écouler. On attend un progrès d'à peu près 40% de l'autonomie des batteries sur les 18 prochains mois. Donc ça veut dire que le temps de certifier ces avions, les batteries auront aussi évolué. Et on va avoir des autonomies qui vont être de plus en plus importantes.
Est-ce que la révolution de l'avion électrique pourrait un jour concerner les gros porteurs ?
Alors c'est très peu probable. En fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que jusqu'à 20 places, l'avion électrique 100% électrique à batterie peut fonctionner. Après, on a un souci de lié au poids et à la densité des batteries. Donc, sauf à avoir un choc technologique ou une évolution significative sur les batteries, ce qui est tout à fait possible, hein, parce que Elon Musk a annoncé sur Tesla viser des batteries à titre solide qui pourraient augmenter la densité par 4. Donc, si effectivement on réussit à augmenter la densité par 4, là, on pourra aller sur des beaucoup plus gros porteurs. Mais à ce stade, on est limité à 19 places environ. Entre 19 et 100 places, on pense qu'il y a une fenêtre pour les avions hydrogène, parce que l'hydrogène est parfaitement adapté pour des véhicules un peu plus gros. et ça pourrait être une solution pertinente. Il y a déjà des tests aux États-Unis, pour donner un exemple. Zero Avia a fait voler un avion, un grand caravane, alors c'est un 9 places, converti 100% électrique. Et toujours aux États-Unis, on a une conversion d'un avion de type ATR en hydrogène de la même manière et qui faisait 72 places. Donc tout ça, c'est en train de se mettre en place autour de l'électrique, autour de l'hydrogène, avec des avions neufs, bien sûr, mais aussi avec des conversions. Parce que finalement, le vrai enjeu, c'est neuf, mais c'est surtout de convertir la flotte existante et de lui permettre de se décarboner. Les avions, ça coûte très cher à acheter. Ça a une durée de vie beaucoup plus importante qu'une voiture, hein. La durée de vie moyenne d'un avion, c'est 40 à 45 ans. Donc, il va falloir réussir à transformer toute la flotte si on veut décarboner rapidement.
Restons sur l'électrique. On ne fait plus le plein de kérosène, qui lui est très polluant et hors de prix. Comment on fait pour recharger ?
Alors, la recharge est un vrai sujet, hein. C'est exactement comme pour les voitures. Dans un premier temps, ce qu'on imagine, en tout cas pour l'activité de transport, c'est que l'électrique sera tout à fait adapté pour faire des petites lignes aériennes régulières ou des déplacements interrégionaux. Parce qu'avec 800 km d'autonomie, si on a juste un chargeur au départ, on peut faire des allers-retours concrètement à peu près de 300 km à la ronde. Si ensuite on installe des chargeurs grande vitesse sur les aérodromes de destination, là on peut très facilement faire de la ligne régulière. Donc moi je suis aussi propriétaire d'une compagnie aérienne, hein, qui s'appelle Finistère, qui est une toute petite compagnie aérienne, qui fait la plus petite ligne de France, puisque c'est du Brest-Ouessant. Et typiquement, ce genre de ligne, on peut la décarboner intégralement. Vous imaginez un Nantes-Belle-Île ou un Nantes-Île-Dieu, par exemple. C'est le genre de ligne qui se prête parfaitement bien à l'électrique. Et ça va arriver très, très vite.
On fait une pause, Charles Kabilic. On se retrouve juste après, parce qu'on va parler du prix. C'est beaucoup, beaucoup moins cher que de prendre un avion thermique. Hein.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes ce matin avec Charles Kabilic, le patron de Green Aerolis à Brest, qui vient de commander 50 exemplaires du premier avion électrique autorisé à voler dans l'espace aérien français, le Pipistrel Vélis Electro. On l'a dit, pour l'instant c'est un biplace, mais très vite il y aura beaucoup plus de places que ça. On pourra faire monter toute une équipe de football, il n'y aura plus besoin de polémiquer. Alors, première chose, un avion électrique, le premier avantage c'est qu'il ne fait pas de bruit. Hein, on a l'impression de monter dans un planeur. Et puis, le deuxième avantage, c'est qu'il coûte beaucoup moins cher à l'achat qu'un avion traditionnel. Votre Pipistrel Vélis Electro, il coûte 200 000 euros à peu près, c'est-à-dire deux fois moins cher qu'un Cessna 182. Alors le Cessna 182, il est à 4 places, mais il est beaucoup moins cher aussi que le jet privé à réaction le plus abordable. Le Vision Jet, c'est 1 250 000 euros. Alors lui, il prend 5 passagers, il va à 550 km/h. Mais enfin, on voit bien, c'est le début.
Alors exactement. Alors, on n'imagine pas tant que ça d'avoir d'économies à l'achat. Les économies, elles vont plutôt être sur l'exploitation. Parce qu'à l'achat, on voit bien que le coût des batteries, le coût de l'innovation fait qu'au tout début, en tout cas, on va avoir des coûts d'investissement qui vont être relativement élevés. Par contre, les coûts de maintenance sont quasiment réduits à néant, puisque un moteur électrique, ça ne s'entretient quasiment pas. Des batteries, ça ne s'entretient pas du tout. C'est juste de la surveillance. Donc, concrètement, et le rechargement de l'avion coûte relativement peu cher également. Donc, on imagine avoir des avantages, en tout cas des économies de l'ordre de 30 à 40%, voire potentiellement 50% sur les coûts d'exploitation des avions.
Ne serait-ce que parce que le plein de kérosène, c'est hors de prix. Hein.
Alors le plein de kérosène, c'est hors de prix, et puis on imagine que ça ne devrait pas aller en s'améliorant. Et le deuxième impact, c'est aussi que l'avion électrique, si on réussit à le faire voler le plus possible, c'est que les frais fixes d'investissement en fait, vont être amortis. Et donc, on va pouvoir tirer un prix marginal, entre guillemets, qui est très, 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 très faible. Donc, si on veut faire, par exemple, de la rotation ou de la navette, typiquement, c'est absolument idéal. Imaginez, je vous reprends un exemple des îles, par exemple, une navette qui, à longueur de journée, fait des allers-retours pour aller en Corse, à Belle-Île, à l'Île-Dieu ou ailleurs. Vous allez pouvoir économiser non seulement du carburant d'avion, mais surtout du carburant de bateau, qui sont quand même aussi très impactants d'un point de vue écologique. Et comme vous le disiez, le gros avantage de cette nouvelle technologie, c'est que le bruit est divisé par 14 environ. Aujourd'hui, le Vélis Electro est 14 fois moins bruyant que le DR400 équivalent qu'il y a aujourd'hui en aéroclub ou en école de formation. Donc ça, c'est un vrai impact positif pour les riverains.
Mais restons sur le prix, ça va se démocratiser parce qu'on va tous être tentés de prendre l'avion. On trouve ça bling bling aujourd'hui, mais à, je sais pas, 125 euros de l'heure, c'est proche du des tarifs pratiqués par les taxis-motos.
Oui, alors le 125 euros de l'heure, c'est forcément, c'est pour un avion qui est un avion de loisir, donc on sera forcément significativement, sensiblement plus cher pour un avion de transport qui devra aller un peu plus loin et qui devra voler aux instruments, c'est-à-dire dans toutes les conditions météo. Mais c'est vrai qu'on va se rapprocher, en tout cas, du coût du déplacement réel de la voiture et du train, parce que quelque part, il y a une aberration aujourd'hui quand on parle des moyens de transport. Quand on parle du train, on ne parle que du train électrique. On ne parle jamais des lignes secondaires. Il y a 42% du réseau ferré français qui est encore au fioul aujourd'hui. Toutes les lignes transversales ne sont pas encore électrifiées. Et ça coûte une fortune de les électrifier. Et on ne parle jamais non plus du fait qu'il faut renouveler les rails, les voies, le ballast et ainsi de suite. Quand on parle de voiture, c'est pareil. On ne parle que de la voiture. On ne parle jamais de la route et de l'usure de la route qui est un bien public payé par nos impôts. Demain, sur de l'aviation électrique décarbonée, on n'a aucune infrastructure. Un terrain d'aviation, c'est un ruban de route qui fait 600 mètres à 1 km pour un avion relativement léger. Donc ça veut dire que quand il vole, il va en ligne droite, il ne s'arrête pas au feu, il consomme très peu d'énergie, parce que l'énergie qu'il consomme, c'est pour monter, mais une fois qu'il est en haut, c'est très faible. Donc moi, j'ai la conviction que l'aviation légère va être relativement rapidement le moyen de transport le plus écologique qu'on puisse avoir et le moins impactant en termes de nuisances à la fois sonores et à la fois carbone sur nos environnements. Donc ça, c'est une vraie opportunité. Et puis, je dirais un dernier mot là-dessus, c'est que l'opportunité, elle est aussi sur la démocratisation de l'accès à l'aérien et sur le désenclavement de nos régions. Parce que clairement, aujourd'hui, le transport facile, c'est quand même l'apanage des grandes villes. Quand on est dans une ville de taille moyenne ou une petite ville, on n'a absolument pas accès à une offre de transport adaptée. Vous êtes à Auxerre ou dans le Massif central, c'est très compliqué. Avec ce genre de nouveaux moyens de déplacement, vous rendez beaucoup plus attractif des territoires qui ne l'étaient pas et vous allez permettre aux Français de vivre et de travailler là où ils sont bien. Et en tout cas, moi, je pense que c'est ça l'enjeu principal de demain.
Un dernier mot, Charles Kabilic. Et les taxis volants silencieux, tout électriques, pouvant décoller et atterrir à la verticale et sans pilote, qui devraient révolutionner le transport dans les grands centres urbains. Deux modèles avaient été dévoilés au Salon du Bourget en 2019. Il y a un projet censé voir le jour à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Est-ce que vous savez où ça en est?
Alors nous, on suit ces projets-là également d'assez près. Alors, C'est vraiment très, très pris au sérieux parce que la réglementation est quasiment déjà écrite au niveau européen. Il y a des projets qui volent, hein, puisque Volocopter vole déjà aujourd'hui en prototype. Lilium également fait des choses intéressantes. Il y a eu environ 10 milliards de dollars investis dans des projets d'avions décarbonés et d'avions à décollage vertical, hein, ce qu'on appelle les eVTOL, les fameux eVTOL. Après, la vraie difficulté pour moi, ça va être la capacité d'accepter d'avoir des objets volants au-dessus des villes, à l'instar de ce qu'on accepte pour les hélicoptères. Mais c'est un marché, c'est un nouveau marché. Typiquement, pour aller aux aéroports, ça pourrait tout à fait avoir du sens de partir du périphérique de Paris et de pouvoir aller à Roissy ou à Orly très rapidement. Les rayons d'action sont très limités, mais l'intérêt, c'est le périurbain.
Merci Charles Kabilic. Je rappelle que vous êtes le patron de Green Aerolease à Brest, une entreprise qui veut décarboner le transport aérien. Merci encore. On fait une pause. On se retrouve juste après avec Alice Zeniter. On va parler de la fiction et de la place des femmes dans la fiction.
9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Alice Zeniter, bonjour.
Bonjour.
On vous doit des romans comme Sombre dimanche, Juste avant l'oubli ou L'art de perdre, mais en cette rentrée littéraire, ce n'est pas un roman que vous publiez. Toute une moitié du monde est une réflexion intime sur la fiction, en tant que lectrice, en tant qu'auteur, et sur la place des femmes dans la fiction. C'est pendant le premier confinement que vous avez commencé à y réfléchir. Pourquoi à ce moment-là ?
Parce qu'en fait, j'avais l'impression que les histoires que me proposaient les fictions que je trouvais dans mes lectures, mais aussi dans les films et les séries, était tout à coup complètement éloigné de ce que je vivais, de ce qu'on vivait à l'échelle nationale, c'est-à-dire une situation qui était complètement suspendue et dans laquelle le futur était absolument incertain. C'était impossible de se projeter et de savoir. Parfois, on se disait, mais si ça se trouve, dans deux semaines, on va se réveiller et, je ne sais pas, 10% de l'humanité aura été éradiquée par ce nouveau virus. Et parfois, on se disait, peut-être que dans deux jours, on va nous dire, les gars, on a paniqué un peu trop, en fait, pardon, c'est bon, ressortez, revenez à la normale, il ne s'est rien passé. Et donc voilà, ce futur comme ça, complètement, complètement flottant, rendait d'une certaine manière obsolète ou mensongère toutes les histoires que je voyais autour de moi et où le héros pouvait se lancer en étant sûr que demain, la situation ressemblerait à celle d'aujourd'hui.
Vous dites aussi que pendant ce confinement, on se sentait comme des enfants, au fond, dans l'incapacité de décider pour nous-mêmes. Et c'est une tendance des enfants de se rabattre sur la fiction, justement.
En tout cas, oui, moi, ça m'a rappelé mon état de mineur, en fait. Quand, dans ma chambre d'enfant, je lisais pour pouvoir me projeter dans des existences de gens plus puissants que moi et de gens qui pouvaient prendre des décisions qui allaient changer le cours du monde. Je lisais pour être mousquetaire, je lisais pour être pirate, je lisais pour être prince, pour être... Et à côté de ça, bah, en fait, j'étais obligée tout le temps de dépendre de la volonté des adultes si je voulais que quelque chose se passe dans ma propre vie et qu'on m'enlève aux quelques mètres carrés où j'habitais quotidiennement. Donc, il y avait clairement un écart entre cette toute-puissance que je trouvais dans la fiction et cette puissance qui était liée à mon statut d'enfant. Et pendant le premier confinement, j'ai retrouvé ça, sauf que j'arrivais plus à croire aux fictions qui auraient pu m'arracher à mon impuissance.
La fiction à laquelle il manque tout de même, d'après vous, toute une moitié du monde, hein, c'est-à-dire les femmes, c'est le titre de votre livre. Et la preuve, hein, puisque vous venez de le dire, quand vous lisiez de la fiction enfant, c'était pour vous identifier à un prince ou à un mousquetaire. Au fond, une lectrice, elle doit d'abord et souvent s'identifier à un homme.
Si on cherche en effet des existences actives, aventurières dans la fiction, eh ben on va se projeter dans les personnages masculins à quelques rares exceptions. Alors merci Fifi Brindacier, merci Claude du Club des Cinq, même si en fait Claude elle peut être active seulement parce qu'elle ressemble à un garçon. Donc comme on la prend pour un garçon, ben, on lui laisse faire des choses de garçon.
Il y avait Fantomette, mais je me souviens de Fantomette.
Il y avait aussi Fantomette qui était super, en fait. Tout à coup, je me dis, elle était super, Fantomette.
Moi, je lisais Fantomette, je l'adorais.
Boulotte et Ficelle n'étaient clairement pas des modèles féminins auxquels j'aurais pu m'identifier. Et même étaient des caricatures un peu misogynes de femmes. Mais Fantomette, elle était bien, ouais.
C'est pas seulement dans la littérature enfantine. Hein. Pendant très longtemps, il y a eu un déficit de modèles féminins dans la littérature pour adultes.
Oui, c'est-à-dire que celles qu'on me présentait comme des grands personnages féminins de la littérature, alors certes, pouvaient être des personnages extrêmement bien écrits et appartenant à des chefs-d'œuvre littéraires. Mais au bout d'un moment, quand on fait le compte et que l'accumulation commence à peser, on se dit mais c'est que des amoureuses, amoureuses qui finissent et non seulement éplorées, mais qui finissent suicidées ou qui finissent assassinées ou qui finissent au couvent ou qui finissent
malades.
Malades, parfois foudroyées par un chagrin d'amour tel qu'elles meurent. On ne sait pas si c'est censé être du suicide ou une sorte de capsule de poison déclenchée par une morale extérieure. En tout cas, aucune de ces femmes n'a une trajectoire qui puisse faire envie.
Alors, et donc, quand j'ai lu ces pages-là, Alice Zénithère, je me suis dit, elle exagère, il y a des milliers de personnages féminins fascinants dans la littérature, peinture, dans le théâtre, dans le cinéma. Mais peut-être qu'elles sont fascinantes pour un homme qui les regarde de l'extérieur et qu'une femme, elle, les trouve un peu superficielles.
Ou alors, comme je dis, peut-être qu'elles sont fascinantes quand on les rencontre rarement. Mais si elles constituent l'essentiel, les 99% des femmes qu'on peut rencontrer au pays de la fiction, alors elles commencent à devenir pesantes, inquiétantes, angoissantes. On lie forcément leur statut de femme à leur histoire tragique. Et donc on se dit, mais du coup, ça va être comme ça pour moi aussi. C'est ça qui m'est promis. C'est ça l'horizon d'attente.
Moi, je pensais plutôt à des personnages féminins qui sont toutes belles, qui aiment les hommes, qui aiment le sexe, qui veulent le pouvoir, qui veulent l'argent, qui veulent faire des enfants, c'est-à-dire des fantasmes, au fond.
Oui, alors ça, c'est vrai que cette idée des personnages féminins qui aiment tous les hommes, le sexe et qui jouissent en quatre lignes, c'est une des fameuses citations des Pentes dans King Kong Theory, qui m'a fait réaliser que moi aussi, en fait, j'avais créé une immense partie de mes personnages féminins pour qu'il soit désirable pour les personnages masculins. Parce que je m'étais habituée à ça, en fait. Ma fréquentation des livres m'avait fait penser, mais de manière très inconsciente, qu'un personnage féminin, c'était fait pour apparaître dans un bal, un petit matin à l'aube, dans une forêt, faisant du cheval à une heure indue. C'était fait pour arriver comme une apparition foudroyante qui déclenchait l'amour. Et donc, les personnages féminins qui déclencheraient pas ça, je ne savais pas quoi en faire. Si, peut-être un personnage de maman qui peut aider, écouter, offrir une oreille et une épaule, mais ce n'est pas des personnages de premier plan. Et il a fallu que je me reconfigure. Je veux dire, après la lecture de King Kong Theory, j'ai dû me reconfigurer.
Mais... C'était son manifeste pour un nouveau féminisme, hein, qui a eu beaucoup de retentissement à l'époque. Hein. Elle était moins connue qu'aujourd'hui, Virginie Despentes, mais elle avait déjà beaucoup de lectrices.
Oui, ça ne m'étonne pas. Enfin, et c'est encore un livre qui a un effet très fort aujourd'hui, parce qu'en fait, je le trouve immensément riche. C'est-à-dire, il est riche pour moi en tant que femme, et il est riche pour moi aussi en tant qu'autrice. C'est-à-dire que ça reconfigure ma manière de voir le monde et du coup ma pratique artistique derrière. Et voilà, et j'ai essayé de faire le catalogue de mes personnages féminins et je me suis dit qu'il allait falloir que je change deux ou trois trucs.
Vous parlez du test de Bechdel. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Parce qu'il est intéressant, ce test.
C'est un test qui est tiré d'une BD d'Alison Bechdel, qui est une autrice américaine. Et en fait, qui se résume à trois critères. C'est-à-dire, dans une œuvre, il doit y avoir deux femmes qui sont nommées à l'égal des hommes. C'est-à-dire, si les hommes ont droit à un prénom et un nom de famille, ben, les femmes aussi. Ces deux femmes doivent avoir une scène où elles parlent ensemble. Et c'est là que, généralement, ça devient plus compliqué. Elles parlent d'autre chose que d'un homme. Et si une œuvre ne coche pas ces trois cases, en fait, ça veut dire qu'elle est trop centrée sur ces figures masculines, qu'il n'y a clairement pas d'égalité des sexes dans l'œuvre, le film, livre ou série qu'on regarde ou qu'on...
Vous citez également, alors lui, je n'en avais jamais entendu parler, c'est le test de la lampe. Il est cruel, celui-là.
Oui, qui est une variation qui est très drôle et qui est encore plus lapidaire, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut remplacer le personnage féminin de cette histoire par une lampe sans que ça modifie l'intrigue?
C'est horrible.
Ça a l'air d'être une blague, c'est que ça a l'air d'être une blague, ça a l'air d'être fait pour provoquer des éclats de rire, mais parfois on peut répondre oui.
Dans à peu près tous les westerns, déjà.
Voilà.
Vous parlez du mépris dans lequel les écrivains, encore aujourd'hui, tiennent les écrivaines, hein, hormis quelques-unes, toujours les mêmes, Yourcenar, Marguerite Duras ou Virginia Woolf, parce qu'elles sont mortes. Mais sinon, vous êtes toujours prise un peu à la légère.
Mais en fait, c'est ce que disait Anne-Marie Garat, c'est-à-dire qu'il y a toujours une suspicion que les livres de femmes soient des livres de bonnes femmes. Et on arrive avec quand même ce doute qui est qu'on ne serait pas des artistes à part entière, des créatrices de langage, des destructrices de règles, capables d'ériger de nouveaux modèles. Non, on serait... En fait, on continuerait à être dans cette séparation de la parole qui font que les femmes se sont vues interdire en fait, la parole publique pendant très longtemps. Et aujourd'hui, cette interdiction, elle s'est juste... elle a changé de forme. C'est-à-dire, bien sûr, les femmes peuvent écrire, peuvent publier, elles le font énormément.
Et elles le faisaient déjà au 18e ou au 19e siècle.
Mais avec cette chose qui était, elles écrivent pour les femmes. Elles écrivent des traités de morale, elles écrivent des journaux intimes, elles écrivent des petits traités sur les arts, sur comment faire de l'aquarelle.
Vous dites aussi que les contrats aujourd'hui dans les maisons d'édition sont moins âprement négociés par les femmes. Les femmes reçoivent moins d'invitations dans les festivals. Elles comptent moins, quoi. Donc on les voit moins.
Oui,
elles pèsent moins.
Et là, c'est pas moi qui fais une déclaration empirique en disant voilà ce que j'ai vu. C'est les chiffres qui sont publiés dans le rapport Racine, dans les études du CNN. En fait, que ce soit dans les prix littéraires, dans les invitations en salon, dans les ceci ou cela, en fait, on observe qu'il y a moins de femmes, alors qu'en fait, elles publient plus. Elles sont plus nombreuses, elles publient plus, mais elles sont moins bien payées, moins invitées, elles ont moins de place dans la presse, en termes de temps, de longueur de papier, etc. Elles sont beaucoup moins présentes. Donc oui, elles sont... c'est ce que je dis, c'est que finalement, on a une chambre à nous, comme le disait Virginia Woolf. On a un petit peu de rente, mais donc moins que les hommes.
Oui, disait Virginia Woolf pour expliquer que les femmes écrivaient moins que les hommes, voilà, c'est qu'elles n'avaient pas de chambre à elles et elles n'avaient pas une rente.
Les 500 livres de rente qui leur permettraient d'écrire. Donc sur la chambre, ça va mieux. Sur les rentes, ça va mieux, mais on n'est pas encore là. Et sur la question de la reconnaissance, par contre, on voit qu'il y a encore un gros décalage.
Alice Zeniter, c'est quoi pour vous la morale de toute une moitié du monde?
Je ne sais pas si c'est une morale. Ce serait un appel à aller courir et batifoler dans cette moitié du monde qui est encore trop peu racontée et qui n'est pas uniquement celle des femmes. Il y a plein d'autres chantiers possibles que j'ouvre et que je nomme dans le livre. Et c'est de dire, quand on dit que ces endroits-là sont trop peu racontés, je supporte pas la posture morale en face qui consiste à se raidir et à dire « mais c'est de la censure, c'est une position woke, vous voulez qu'on raconte ». Moi, ce que je dis, c'est « non, en fait, ça, c'est ouvert, personne y allait ou très peu y sont allés ». C'est un formidable appel à aller raconter autre chose, en fait. Dire qu'il reste toute une moitié du monde à raconter, c'est le programme le plus joyeux qu'on puisse fixer à la fiction.
Merci Élise Zeniter, toute une moitié du monde, ça vient de paraître chez Flammarion. On fait une pause, on se retrouve dans un instant et on va raconter l'une des plus grandes affaires d'espionnage du XXe siècle. C'est une affaire d'hommes, ça, hein, vous allez voir. Il y a surtout des hommes dans cette histoire.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Rémi Koffer, je suis ravi de vous revoir. Vous êtes un spécialiste des histoires d'espionnage et vous consacrez un gros livre aux 5 de Cambridge, la plus grosse affaire d'espionnage du XXe siècle, hein, 5 taupes soviétiques au cœur des services secrets de Sa Majesté. Votre livre s'intitule « Les espions de Cambridge ». Ça commence dans les années 30, à une époque où, au fond, il n'y a que les Russes et les Anglais qui prennent l'espionnage, les services secrets, au sérieux. Les Français, pour nous, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, Matahari, c'est n'importe quoi. Les Allemands ne connaissent pas tellement. Les Américains n'ont même pas de service secret jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a que les Russes et les Anglais qui prennent ça vraiment au sérieux.
Les Soviétiques plus que les Anglais, parce que les Anglais, comme nous, après la Première Guerre mondiale, ont un peu épuré leur service secret parce qu'ils avaient trop de personnel. Alors que les Soviétiques misent à fond là-dessus. À partir du moment où ils voient une possibilité d'entrer dans la haute société anglaise, ils vont l'exploiter.
C'est une idée russe au départ, hein, les 5 de Cambridge.
Oui, c'est une idée de Maxim Litvinov, qui est l'ancien ambassadeur de l'Union soviétique à Londres et qui est devenu ministre des Affaires étrangères. Et Litvinov, qui est juif, sera écarté au moment du pacte germano-soviétique au profit de Molotov.
Et il a l'idée, effectivement, de recruter des jeunes gens de la bonne société, appelés donc à gravir les échelons de la société britannique, et de les recruter pour en faire des taupes, des espions, des gens qui vont, comme ça, attendre qu'on les réveille. C'est comme ça que nous voyons les taupes, et c'est pour ça qu'on les appelle des taupes. Alors, pourquoi ces 5-là? Qu'est-ce qu'ils ont, tous les 5, qui va les faire basculer?
Pour beaucoup, pour 4 sur 5, je dirais, il y a la force de l'idéologie. C'est-à-dire que le communisme apparaît la solution à tous les problèmes à l'époque. Ils sont très minoritaires, les éléments qui ont de la sympathie pour le communisme sont très minoritaires à Cambridge, mais enfin, ils sont assez soudés, ils se réunissent, etc. Et puis, le cinquième, Anthony Blunt, c'est pour des raisons plutôt esthétiques, c'est-à-dire que c'est un spécialiste de la peinture, en particulier pour chez nous de Nicolas Poussin, grand spécialiste mondial de Nicolas Poussin. Et Blunt pense qu'il n'y a que dans une société socialiste qu'on pourra faire à l'art le même traitement qu'il y a eu en Italie sous la Renaissance.
Blunt qui finira quand même conservateur des collections royales de la reine Elisabeth II à Buckingham Palace.
Hein. Tout à fait. Ce qui est pour un ancien agent soviétique est quand même un problème.
Ou une réussite, ça dépend de quel point de vue on se pense. Alors il s'appelle Kim Philby, Guy Burgess, Donald MacLean, Anthony Blunt et John Cairncross. On a souvent dit qu'ils étaient tous homosexuels. Non, il y en a deux qui sont homosexuels.
Non, il y en a deux qui sont homosexuels.
Guy Burgess.
Voilà, Burgess, qui est une espèce d'homosexuel qui saute sur tout ce qui bouge. C'est un personnage extraordinaire. À un moment dans le bouquin, je dis que c'est une gay pride à lui tout seul. Et qui a la particularité de rester fidèle à ses anciens amants. Il reste copain avec ses anciens amants, dont Anthony Blunt, qui effectivement, ils ont une liaison assez courte, mais il reste très proche et Blunt se sentira, alors qu'il ne se sent aucune fidélité envers la Grande-Bretagne, il se sent une fidélité envers Burgess qui protégera.
Ils se connaissent tous les 5 à Cambridge?
Ils se connaissent, mais il y en a un qui est un peu à l'écart, c'est John Cairncross.
Le cinquième, le dernier qu'on découvrira.
Le cinquième, et pas le moins efficace. Mais celui-là, c'est un Écossais, il est considéré un peu comme un plouc par les autres, en particulier Blunt. Blunt le balancera d'ailleurs pour sauver sa peau au service anglais.
Ils vont faire tous les 5 de très très belles carrières, hein. Ils étaient appelés de toute façon à réussir, mais tous vont réussir à un moment ou à un autre à infiltrer les services secrets britanniques et au moment où commence la Seconde Guerre mondiale, ils sont tous en place.
L'idée c'est que la classe dirigeante anglaise était une des plus restreintes numériquement au monde. Donc si vous en faites partie, eh ben vous allez forcément avoir accès à des hauts postes, c'est ce qui va arriver, des postes dans les services secrets ou au Foreign Office, dans le cas de MacLean.
C'était un très bon calcul de la part des Soviétiques et il a parfaitement réussi. Hein. Aucun d'entre eux, d'ailleurs, ne va se mettre à table.
Non, et d'ailleurs, ils mourront tous dans leur lit, tranquilles.
Le problème, quand on est anglais, recruté par les Soviétiques et censé espionner la Grande-Bretagne, c'est que les Soviétiques ont tendance à penser que vous pouvez mener double jeu. Ça a été leur problème, hein, à eux aussi.
Ça a été leur problème, étant donné que le système léniniste-stalinien est par définition un système complètement paranoïaque. Donc, il y avait un mythe très fort de l'intelligence service qui est omniprésent, qui est bon. Et du fait qu'ils arrivent à des postes de responsabilité dans les services secrets, pour les Soviétiques, pendant longtemps, ça sera de la méfiance. C'est sans doute un coup des Anglais. Sauf que comme ils vont apporter quand même beaucoup de choses, on va finir par se dire, en tout cas, si c'est des agents anglais, ils nous en donnent plus qu'on pouvait l'espérer. Donc ils sont très contents finalement.
On fait une pause, Rémi Kofer, et puis vous allez nous dire tout ce qu'ils ont livré, les 5 de Cambridge, et ça fait un paquet. Hein.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Rémi Kofer est avec nous ce matin. Il publie « Les espions de Cambridge, 5 taupes soviétiques au cœur des services secrets de Sa Majesté » chez Perrin. C'est l'histoire de Burgess et MacLean, de Kim Philby, de Anthony Blunt et de John Cairncross. Les 5 de Cambridge, ce sont eux. Alors, quels secrets ont-ils livrés ?
Des choses très importantes. MacLean et Cairncross apportent en Union soviétique la révélation du programme nucléaire anglo-américain, c'est-à-dire pour fabriquer la bombe atomique. Donc c'est une chose dont les Soviétiques sont avertis très tôt, très en amont. Cairncross va apporter aux Soviétiques d'énormes renseignements militaires avant ce qu'est le grand tournant de la Deuxième Guerre mondiale sur le front de l'Est, c'est-à-dire la bataille de Koursk. Il leur apporte
la grande bataille de chars.
Voilà, la plus grande bataille. La bataille qui va décider du sort de la guerre à l'Est.
Mais ce moment-là, les Soviétiques sont nos alliés, sont les alliés des Anglais.
C'est ce que dira Cairncross aussi. On peut toujours justifier qu'on a trahi son pays. Hein. C'est avec un peu de dialectique. C'était tous des marxistes, donc rompus à la dialectique. Mais ils n'apportent pas seulement ça. Ils apportent, dans le cas de Philby, des éléments très précis sur les tentatives après-guerre des Occidentaux de créer des maquis dans les pays de l'Est. Donc il apporte parce qu'il a réussi à rouler Jim Angleton, qui est le chef du contre-espionnage de la CIA et qui connaît Philby depuis la guerre et qui lui révèle énormément de choses, ce qui aura un effet d'ailleurs extraordinaire que je crois personne n'en l'a réalisé jusqu'à présent, c'est que pendant 30 ans, jusqu'au départ d'Angleton du contre-espionnage, c'est-à-dire en 1974, 30 ans après le recrutement du premier des 5 de Cambridge, eh bien, pendant des années, la CIA, qui était jeune, a été paralysée parce qu'il était devenu complètement parano. Il voyait des traîtres partout. Il n'avait pas vu le traître qui était sous ses yeux et il racontait, c'était grand ami, ils mangeaient ensemble, etc. Il racontait par le menu. Donc, il devient complètement parano. Il estime que tout soviétique qui veut passer aux Occidentaux est forcément une taupe soviétique. Donc,
les services anglais, d'ailleurs, ont beaucoup souffert de cette affaire. On ne les prenait plus du tout au sérieux. D'ailleurs, je me suis toujours demandé si la naissance de James Bond, 2 ans après la défection de Burgess et MacLean, ce n'était pas une manière de redorer un peu le blason des Anglais.
C'est peut-être curatif, oui, parce qu'effectivement, ils avaient l'air plus que nigauds. Et les Américains étaient furieux. Les Américains étaient furieux parce que les Anglais avaient couvert par une espèce d'esprit de caste. C'était tous des anciens de Cambridge. Ils font partie de l'establishment.
Et puis ils arrivent.
Donc on les protège.
Ils arrivent aux services secrets. Ils arrivent dans les ambassades, notamment à l'ambassade des États-Unis juste après la guerre. Il y en a un qui rentre carrément dans le bureau du ministre des Affaires étrangères. Il est là. Il travaille là. Ils sont dans les ambassades. Ils voient tout. Transmettent tout aux Soviétiques.
Ils passent tout ce qu'ils peuvent aux Soviétiques, à la différence qu'à cause à l'exception du fait que du système stalinien, leur premier contrôleur, les gens qui les ont recrutés dans les années 30 et qui les traitaient en termes de métier, ont été rappelés à Moscou. Et là, c'est pris une balle dans la nuque, car suspect. Donc, il y a des moments où, effectivement, ils ont des renseignements formidables, mais il faut que Guy Burgess passe à Paris, où il a des tas de copains homosexuels, etc., y compris dans l'entourage de Daladier, qui est président du Conseil, pour donner directement résident soviétique à Paris les renseignements, parce que les officiers traitants ont disparu. Ils ont des perles et puis ils ne savent pas les utiliser.
Les premiers qui sont soupçonnés, c'est Burgess et MacLean, mais Kim Philby est averti et il les prévient et ils vont pouvoir s'en aller.
Oui, tout à fait. Ils ont été repérés. MacLean a été repéré par les interceptions et les décryptages des messages radio échangés entre les représentations diplomatiques soviétiques aux États-Unis et Moscou. Et Philby est averti, effectivement. Il est l'agent, l'officier de liaison entre la CIA et le MI6, c'est-à-dire le service secret anglais, à Washington.
Et c'est un espion soviétique.
Et c'est un espion soviétique, mais de toute façon, il a été responsable de la section contre-espionnage anti-soviétique au MI6. C'est-à-dire que vous avez celui qui est chargé de chercher, de repérer les taupes, et lui-même une taupe. Donc, une histoire à la Kafka.
Oui, c'est sûr. Philby lui-même va être soupçonné ensuite. Hein.
Ah bah, il est forcément soupçonné, parce que les deux ont filé en Union soviétique avec...
Un scandale énorme à l'époque. Hein, on est en 1951, c'est en pleine guerre froide, c'est les premiers transfuges.
C'est tout à fait. Et puis, ils arrivent à traverser la France grâce, je le révèle dans ce bouquin, parce que même les Britanniques ignorent son identité, par un Français, ancien communiste, mis en sommeil et qu'on a réveillé pour les faire passer. Et ils passent effectivement à Moscou. Donc, comme ils passent tous les deux à Moscou et que Burgess a fait précédemment un scandale quand il était à Washington, parce que lui aussi était à Washington, Philby devient immédiatement suspect, sauf que Philby sera protégé par l'entre-soi de l'aristocratie britannique. On dira ce vieux Kim, il ne peut pas être coupable, etc. Donc on le débranche un peu, enfin on l'envoie au Liban avec une couverture de journaliste. Et là, au Liban, il est agent double, c'est-à-dire qu'il ne passe pas grand-chose aux Anglais. Mais il a un officier traitant soviétique sur place, et en 1963, quand ça va vraiment commencer à chauffer pour son matricule, eh bien, il est exfiltré depuis Beyrouth. Et là, nouveau scandale, parce que, en effet, les Américains sont encore plus furieux qu'avant.
Là, ça en fait trois, hein, les trois de Cambridge, à l'époque, voilà. On les appelait. On s'apercevra ensuite qu'il y en a un quatrième, qui à ce moment-là loge à Buckingham Palace. C'est l'historien d'art très réputé Anthony Blount, conservateur des collections royales. Lui, on s'en aperçoit très tard. Et d'ailleurs, là aussi, on va étouffer l'affaire. Elle ne sera rendue publique que par Margaret Thatcher, une fois arrivé au pouvoir. Et puis le dernier, c'est John Cairncross, qui lui vit en France, tranquillement, et a bénéficié lui aussi d'une immunité.
Alors Cairncross, lui, il a effectivement vécu en France. C'était il parlait français couramment, il était même un spécialiste de Molière. Il est revenu en 95 en Angleterre, puisqu'il avait l'immunité de la couronne. Eh bien, il est revenu, il est mort quelques mois après. Il est mort en Angleterre dans son lit. Ils sont tous morts dans leur lit.
Alors, dernière anecdote qui est amusante. Kim Philby arrive donc à Moscou. Il retrouve ses amis Burgess et MacLean. Et il va coucher avec la femme de MacLean.
Il va coucher effectivement avec la femme de MacLean pour se débarrasser d'une autre.
Mais ça veut dire qu'il se fâche avec MacLean.
Bah évidemment. C'est pour se débarrasser d'une autre qui est américaine, parce que Philby est un personnage. Alors, on disait tout à l'heure, est-ce qu'ils étaient tous homosexuels? Ben, Philby était un homme à femme et même un exploiteur à femme. C'est-à-dire
et MacLean aussi.
Il s'en servait aussi. Oui, MacLean aussi, mais de manière quand même moins prononcée. Quoi. Bon, Philby se débarrasse de toutes les femmes de sa vie quand elles sont plus utiles. Il est quand même très cynique.
Ça pourrait faire une série formidable.
Je suis pas, j'essaie toujours de corriger.
Ça pourrait.
De corriger le.
Vous avez dû y penser, l'écrivain.
Oui, bien sûr.
Les Espions de Cambridge, un gros livre, plus de 350 pages, hein, qui nous remet dans l'ordre toute cette histoire fascinante. C'est signé Rémi Koffer. Ça vient de paraître chez
Perrin. Positive et profondément sympathique. Et lui, j'ai trouvé quelque chose.
C'est arrivé demain, arrive à son terme. On se retrouve samedi prochain. Oui. Je vous souhaite une excellente journée sur Europe 1. Dans un instant, ce sera le grand rendez-vous. Bonjour Sonia Mabrouk. Qui sont vos invités aujourd'hui?
C'était un dîner où il n'y avait pas beaucoup de monde.
Bonjour cher Frédéric. Nos invités pour le grand rendez-vous seront l'ancien ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, et l'historien Dimitri Casali. Je serai entouré pour les interroger de Nicolas Barré et de Mathieu Bocoté.
Bonne émission.
Europe 1.